Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de l'invité de la rédaction. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le président de la Chambre des métiers d'Alsace, monsieur Jean-Luc Hoffmann. Bonjour.
Bonjour Dan, bonjour aux auditeurs.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Judaïka. Je crois que c'est une première pour vous, Jean-Luc, votre présence ici.
Oui, tout à fait. Et je vous remercie de cette invitation à venir m'exprimer sur vos ondes.
Eh bien, vous allez vous exprimer, mais évidemment, avant de vous exprimer, nous avons des questions pour vous. Et petit portrait, vous êtes Jean-Luc Hoffmann. Je vous demandais votre âge tout à l'heure, mais en fait, vous n'en avez pas parce que vous êtes l'éternelle jeunesse. C'est peut-être l'artisanat qui fait ça, hein, finalement. C'est l'élixir de jouvence.
Ou les frigos.
ou les frigos, parce que, et c'est une excellente transition, Jean-Luc Hoffmann, vous êtes boucher, charcutier, traiteur en Alsace. Artisan de père en fils, de grand-père en petit-fils, c'est une affaire familiale que vous dirigez avec votre épouse.
En fait, je représente la quatrième génération de boucher charcutier dans ma famille, et puis on est la boucherie à 108 ans d'âge.
108 ans d'âge, c'est aujourd'hui magnifique de pouvoir perpétuer et la tradition et bien sûr les métiers de l'artisanat dont nous allons parler, parce que vous êtes là évidemment aussi en tant que président de cette Chambre des métiers qui, si mes sources sont bonnes, est née d'ailleurs en Alsace et a surtout été un modèle pour l'ensemble de la France. Donc ma première question, Jean-Luc Hoffmann, qu'est-ce que c'est la Chambre des métiers et à quoi sert-elle ?
Alors la Chambre des métiers d'Alsace est la première de France, est née il y a 121 ans. Nos origines sont un peu germaniques et puis c'est quelque chose qui nous a été un peu apporté par la transition qu'on avait une fois allemand, une fois français. Et donc la Chambre des métiers représente les corporations de métiers. Donc nous sommes aujourd'hui, et c'est important de le dire, le garant de la transmission de savoir, de la transmission des métiers. Et dans la période de crise que nous traversons actuellement, nous sommes aussi le premier kilomètre vers l'État pour les remontées des besoins des entreprises et des artisans, et aussi le dernier kilomètre de l'État vers l'artisan pour les informations, pour avoir accès aux aides.
Alors, c'est vrai que les artisans, l'ensemble des métiers ont été durement éprouvés durant cette crise. C'est là qu'on a besoin de la Chambre des métiers. Vous êtes ce garant, ce dernier kilomètre, mais également une sorte de courroie de transmission, quoi.
C'est exactement ça. Et puis, nous avons, durant l'année 2020, éprouvé beaucoup de malheurs dans notre Chambre des métiers, par la perte de notre président emblématique qui était Bernard Stalter, mais également la crise qui s'est invitée dans cette année 2020, la crise qui touche tous les secteurs et des secteurs artisanaux comme, et je pense là par exemple au secteur du tourisme ou au secteur des métiers d'art, mais pas que. Il y a aussi par exemple des boulangers, des pâtissiers qui aujourd'hui ne peuvent ouvrir leur salon de thé. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui me tiennent à cœur aussi de remonter vers les pouvoirs publics pour voir de quelle façon est-ce que ces entreprises, nos entreprises artisanales, peuvent avoir le plus d'aide possible. Et donc, nous avons trouvé, quelque part, un peu retrouvé une pertinence de notre chambre consulaire à exister.
C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est un petit peu, vous êtes le patron des artisans sur la région. Vous évoquez, évidemment, feu Bernard Stalter, que nous avons tous bien connu et auquel nous adressons, bien sûr, notre pensée, ainsi qu'à son épouse et ses enfants. C'est pas une chose facile quand même aussi pour vous, j'imagine, d'assurer cette transition dans ces conditions. Et vous le faites depuis quelques mois maintenant avec brio. Comment s'est passée cette transition pour vous? Et finalement, vous étiez, on dit dans les couloirs, que vous étiez un peu le fils spirituel de Bernard, en tout cas celui à qui il était, de toute façon, la place était donnée.
Oui, nous avions échafaudé un peu un plan pour arriver, parce que nous, les artisans, nous transmettons le savoir et de la même façon, Bernard m'avait un peu transmis son savoir. Bien sûr, tout s'est accéléré. Je peux vous dire que les premières semaines, domaine que j'ai connu n'était pas facile du tout, les premiers mois non plus. On sort vraiment d'une année 2020 qui a ébranlé l'artisanat, mais qui a également ébranlé les collaborateurs de la Chambre des métiers, parce que nous sommes 240, j'ai 240 collaborateurs, et ça a été très difficile à chacun, mais je voudrais ici saluer leur engagement, et leur engagement aussi dans cette période de crise, à faire du phoning, à aller vers les entreprises pour leur faire part de notre soutien et puis remonter les besoins qu'ils ont.
Il y a un vrai rôle d'assistance en fait, hein, d'assistance, de soutien et finalement d'anticipation des besoins pour les faire remonter, c'est ce que vous expliquez.
Oui, et puis il y a eu ce besoin. Aujourd'hui on entrevoit une sortie de crise, peut-être une sortie de crise sanitaire, on l'espère avec le vaccin, et puis on espère aussi, moi j'espère inscrire les artisans dans un monde de modernité, parce que c'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir avancer peut-être beaucoup plus rapidement que ne l'aurait fait autrement. Et c'est une aubaine, on va surfer sur cette aubaine que peut représenter cette sortie de crise pour s'inscrire dans le futur. Je pense par exemple à être plus vertueux, à aller vers l'écologie, à aller vers des systèmes des nouveaux codes, de fonctionnement, à la gestion des déchets, mais aussi à des modes de déplacement plus doux, et puis s'adapter aujourd'hui au monde tel qu'il évolue.
Une proximité, une éco-citoyenneté adaptée également au monde de l'artisanat. C'est aujourd'hui le monde de l'artisanat. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente pour les Alsaciens, le monde de l'artisanat? On entend souvent que l'artisanat est le premier employeur de France. Quid de l'Alsace?
Et d'autant plus en Alsace, puisque nous avons 250, nous représentons 250 métiers.
Mais 250 métiers, 250, c'est énorme.
Voilà, 250 métiers artisanaux en Alsace. Nous avons 42 ou 43 000 ressortissants au jour d'aujourd'hui. Et on peut dire que sur une population de 1,8 million à 2 millions d'habitants, nous représentons à peu près 160-170 000 personnes qui sont directement en lien avec l'artisanat.
C'est énorme en poids. C'est quand même un sacré défi, au-delà d'amener cette transition dans l'innovation, dans le maintien des traditions également, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, la transmission, la tradition, mais c'est aussi l'innovation. C'est important. C'est quand vous êtes dirigeant avec votre épouse d'une boucherie charcuterie traiteur, déjà de belles factures, c'est-à-dire c'est près de 35 personnes, je crois.
Oui, on est non 30 personnes.
Une trentaine de personnes avec des fluctuations. Vous passez de 30 personnes à 280, plus ces 170 000 personnes qui comptent sur vous finalement. Comment s'opère cette transition et comment vous êtes préparé à tout ça?
Je me suis pas trop préparé, j'ai pas trop réfléchi, mais j'ai quand même, en passant le perron tous les matins de la Chambre des métiers, de notre lieu à Schildigheim, eh ben, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont fait ce bâtiment, qui ont œuvré pour 120 ans d'artisans qui se sont succédés au sein de notre établissement. Et j'essaie d'y aller avec beaucoup d'humilité, et puis je sais que je suis qu'un témoin, je suis qu'un passage, et on m'a passé le témoin et je le passerai et je l'espère dans de bonnes conditions. Mais avant cela, je veux que notre chambre de métier puisse évoluer, puisse se moderniser encore, pour que nos CFA également, parce que c'est important de dire qu'on a
centre de formation
qui a deux CFA aujourd'hui qui sont sous l'égide de la chambre de métier. Et là aussi, on va s'inscrire dans des métiers nouveaux, on va essayer d'évoluer, on va essayer d'aller vers la modernité, d'inscrire l'artisanat pour un horizon 2030.
C'est ça, le new CFA, le CFA du futur, en tout cas, et dans son innovation. Vous le dites, Jean-Luc Hoffmann, avec beaucoup d'humilité, vous passez le perron quotidiennement, tous les jours, de la Chambre des métiers. Mais laissez-moi juste un moment de réflexion. Si vous arrivez à une heure, on va dire décente, 8h, 8h30, peut-être même 9h à la Chambre des métiers, je sais que, et ça vous ne le dites pas spontanément, mais moi je le sais, vous avez une autre activité avant, c'est qu'à 5h30, vous êtes déjà à la boucherie à Haguenau, quoi.
Oui, je suis à la boucherie. Aujourd'hui, j'ai quand même la chance de pouvoir m'appuyer sur une belle équipe, une équipe qui est responsable, qui est autonome. Et d'ailleurs, je salue mes collaborateurs parce que c'est important. Et puis, j'ai confiance en eux et me le rendent bien aujourd'hui, puisque j'ai quand même pas quotidiennement le souci du fonctionnement de la boucherie. Puis je peux m'appuyer sur mon épouse, effectivement.
Qui voilà, c'est une équipe. C'est souvent ça aussi, le travail de l'artisan ou des artisans. C'est un tandem, c'est un travail de couple. Donc il faut une parfaite coordination, une entente. On passe quand même beaucoup de temps avec...
Il est important aussi, et en cette période encore plus qu'avant, de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Au mois de mars l'an dernier, nous n'étions vraiment pas sereins sur les conditions dans lesquelles nos équipes évoluaient. Je vous rappelle le contexte, premier confinement, on ne savait pas ce qu'était le virus, on ne savait pas de quelle façon se le transmettre.
On savait rien.
En même temps, j'ai mon ami Bernard Stalter qui était à l'hôpital, intubé. Et avec mon épouse, on se disait, on avait vraiment des moments d'anxiété où on s'est dit, on ne se remettrait pas si quelqu'un dans notre personnel était atteint de la même façon ou devait être amené à être hospitalisé. On ne veut pas prendre ce risque pour mes collègues. Et on a réuni tout le personnel en leur disant, écoutez, si aujourd'hui vous décidez qu'on ferme boutique, on fermera boutique le temps qu'il faudra. Parce que on n'avait pas envie de vivre ça. Et tout le monde, à 100%, tout le monde a dit, non, on se sent en sécurité. C'est vrai qu'on avait mis en place les gestes barrières. On se sent en sécurité, on veut continuer. Et ils nous ont donné un souffle à ce moment-là qui, vraiment, je ne pourrai jamais l'oublier, ce moment.
Je vais vous dire, Jean-Luc Hoffmann, je le sens, ce souffle, parce que ça me met un frisson, ce que vous dites, parce que c'est vraiment le résultat de l'implication et de cette considération de l'humain au cœur de l'entreprise, et pas le contraire.
C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on peut acheter des machines, on peut faire des concepts, on peut tout créer, mais s'il n'y a pas l'humain, il y a rien qui se passe. Et j'ai la chance aussi de visiter beaucoup d'entreprises, et celles qui fonctionnent le mieux, c'est là où on sent que l'employé se sent bien dans l'entreprise. Et c'est aussi quelque chose que je veux insuffler à la Chambre des métiers, aux collaborateurs de la Chambre des métiers. Et je ne manque jamais de passer dans les étages, d'ouvrir les bureaux, de saluer les gens, de leur dire voilà, bonjour, tout simplement. Et c'est comme ça aussi qu'on me remonte les problèmes.
Finalement, ce management de proximité, ce management, on pourrait l'appeler paternaliste, mais en fait, finalement, il n'est pas paternaliste. Il est juste proche des gens. Et il y a un mot qui revient, ou en tout cas que je ressens, c'est la sincérité.
Je suis président de la Chambre des métiers, j'y vais avec mes tripes, et ça aussi, j'ai pas le bagage technique pour connaître les dossiers à fond, bien que je m'immisce de plus en plus. Mais par contre, j'y vais avec la conviction, et j'y vais pour défendre mes pairs. Je suis là, j'ai été élu par mes pairs, par les artisans, et j'y vais pour les défendre, coûte que coûte, et avec mon cœur.
Et ça, je crois que ça fait toute la différence. C'est ce qui doit aussi être apprécié, j'imagine, au plus haut sommet de l'État et dans les administrations, c'est que les gens de terrain font remonter ces informations et vous êtes connecté à la réalité de ce terrain que vous continuez d'arborer. Je le rappelle, 5h30 tous les matins. C'est un message finalement que vous envoyez et aux jeunes et aux moins jeunes, c'est que les choses se font avec un effort. Il y a un goût pour ça, mais il y a aussi la passion.
Le message est aussi de dire, moi j'ai commencé comme apprenti boucher charcutier, Bernard Stalter a commencé comme apprenti coiffeur. On est parti de métiers manuels, mais il y a manière de s'émanciper, il y a manière de grandir, de rentrer dans des commissions, de rentrer. Moi, je suis rentré par le biais de la formation à la Chambre des métiers, puisque j'étais jury sur mon métier, donc j'allais au CFA Échaud, et c'est comme ça que je suis rentré à la Chambre des métiers. Je me suis ouvert sur d'autres métiers, sur d'autres personnes, et c'est un enrichissement personnel qui est énorme, et je ne sais pas si j'avais suivi un cursus de hautes études, je serais arrivé à ce niveau d'enrichissement personnel.
C'est ça, cet enrichissement personnel aujourd'hui, il nécessite du travail, de l'abnégation, de la passion également, et il faut, on le disait tout à l'heure, de la transmission. Alors finalement, état des lieux aussi de ce parcours que vous venez de décrire, quel conseil, comment est-ce que vous allez aujourd'hui manager cette transition avec cette jeunesse? Est-ce que vous avez observé que les jeunes ont changé par rapport à il y a quelques années, par rapport à vos débuts? Et qu'est-ce qu'on en attend aujourd'hui dans l'apprentissage pour le motiver?
Alors les jeunes, j'ai la chance en tant que président de chambre de métier, parce que tous les présidents de chambre de métier n'ont pas cette chance, d'avoir deux CFA sous mes ordres. Et deux CFA, c'est une richesse de voir les jeunes, puisque j'y vais relativement souvent.
C'est plusieurs centaines d'apprentis. Hein,
c'est environ 1500 apprentis sur les deux
sites. Plus qu'un millier.
Et donc il y a le CFA de l'artisanat à Mulhouse et celui à plus près de d'ici à Échaud. À Échaud, qui va être renommé le 12 mars prochain Centre de formation Bernard Stalter. J'ai la chance aujourd'hui d'être président de deux CFA et aujourd'hui je remarque une chose. Je remarque qu'on peut faire confiance aux jeunes. On peut leur faire confiance, on peut les amener vers des métiers qui, s'ils ont la passion de le réaliser, on peut le faire. Nous, chefs d'entreprise qui accueillons, nous, maîtres d'apprentissage qui accueillons ces jeunes, nous devons juste se dire que les codes ont changé, que les jeunes ont d'autres codes et qu'il faut fonctionner avec ces codes. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un chef charcutier chez moi. Il a aujourd'hui 27 ans. Il est venu chez moi à 22 ans.
Alors qu'à l'époque, on rentrait à 15, 16 ans, voire 14.
Non. Il était déjà ailleurs, mais il est devenu chef charcutier chez moi à 22 ans. Je lui ai donné, les clés du camion du cutter. Donc pour faire la charcuterie.
Cutter, c'est une grande cuve dans laquelle des hélices tournent pour hacher finement la pâte, pour ceux qui ne connaissent
pas. Mais en tant que charcutier, en tant que boucher charcutier traditionnel, c'est quelque chose qui se fait pas comme ça. C'est vraiment le poste le plus important, je veux dire, d'une charcuterie, parce que c'est là où se font les mêlées, c'est là où se fait la qualité. Et je lui ai donné les clés du camion à l'âge de 22 ans. J'avais confiance en lui.
C'est ça, c'est une vraie confiance.
Et me l'a rendu au centuple. Jamais, jamais absent, toujours souriant, toujours aucun problème.
C'est-à-dire, vous l'avez dit, moi j'aime beaucoup cette image. En fait, les codes ont changé. Mais si on se réfère à ce qui se passait avant, c'est juste que, en fait, c'était plutôt aux jeunes de s'adapter, tandis que maintenant, il y a un véritable échange. C'est le patron et les jeunes, enfin les patrons et les jeunes doivent s'adapter mutuellement.
Je pense que c'est ça. Je crois beaucoup en ça parce que on apprend aux jeunes et puis faut pas perdre de vue que c'est des jeunes qui étaient en cours encore quelques mois avant qu'on récupère qu'on met dans le monde du travail. Donc il y a une adaptation qui doit exister. Il y a également la période de l'adolescence qui n'est pas simple à passer pour un jeune.
C'est pas simple quand on est apprenti quand même, d'arriver dans un milieu en pleine mutation.
Et sur tous les apprentis que j'ai formés, tous ont toujours eu à un moment donné un déclic positif, parce que déjà ils se sont trouvés dans un bon environnement avec des collègues qui sont à peine un peu plus âgés qu'eux, mais également un moment où ils avaient soif d'apprendre le métier et pour arriver à un examen, un CTM de boucher charcutier traiteur, c'est un examen intermédiaire, mais après on continue à se former tout au long de l'année, tout au long de la vie, je dirais même.
Alors, on parle bien sûr de la boucherie, parce que c'est votre métier, c'est le métier que nous avons également en commun, Jean-Luc Hoffmann. Mais il y a, comme vous le disiez, 249 autres métiers qui sont représentés, passant de la coiffure à la mécanique, aux prothésistes dentaires, aux facteurs d'orgue, des métiers qui bougent et qui amènent aussi vers l'international. C'est tout ça une motivation pour un marché de l'emploi qui est quand même compliqué, ou en tout cas que l'on nous dit compliqué. Finalement, dans l'artisanat, vous n'avez pas ce problème.
Non, dans l'artisanat, on n'a pas trop de problèmes. aujourd'hui, on a les métiers du bâtiment, par exemple, qui fonctionnent très bien, malgré la crise, parce que chacun veut changer son intérieur, chacun veut faire une extension chez soi. Donc, c'est des métiers qui fonctionnent bien. Et de manière générale aussi, je peux dire que l'artisanat s'en tire mieux que l'industrie. Parce que dans l'artisanat, en fin d'année, le résultat n'est pas pillé par les dividendes. Résultat est souvent remis pour l'année d'après en trésorerie. Donc on a pu résister aussi plus facilement. D'un autre côté aussi, on s'est adapté à la situation. je dirais pratiquement tous les métiers de l'alimentaire se sont mis au click and collect très très rapidement. C'est une évolution qu'ils n'auraient pas fait en 5 ou 10 ans. Et c'est des évolutions et c'est des adaptations qu'on a pu faire sur tous les métiers. Je pense par exemple à un ferronnier d'art que j'ai rencontré il n'y a pas trop longtemps, qui l'an dernier n'a pas pu faire salon dans toute la région, puisque tous les salons étaient
fermés.
Voilà, anesthésiés. Et il s'est mis en relation avec quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux et qui, par les réseaux sociaux, aujourd'hui, propose des pièces à vendre partout en France. Il a changé son marché et son marché s'est étendu dans toute la France en personnalisant des pièces de ferronnerie.
C'est ça.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est vraiment un pas aujourd'hui qui semble normal, mais qui ne l'était pas tant que ça pour les artisans, où il a fallu opérer cette mutation aussi de diffusion, de communication, de en fait il y a le faire savoir et le savoir-faire.
Et vous savez, ce que je dis souvent, c'est que les grandes structures ont des directions donc de production. Ensuite il y a les RH, ensuite il y a la gestion, ensuite il y a la communication. Mais dans une entreprise artisanale, tout ça incombe au chef d'entreprise. Alors c'est passionnant, mais on a peut-être des lacunes d'un côté, on en a peut-être dans l'autre. Donc à force d'apprendre, on commence à faire le tour et on rentre aussi dans ce bond de modernité qui va nous amener vers les années futures.
Vers l'apprentissage et vers l'innovation et vers l'artisanat du futur. Je me dis, en faisant le calcul, vous démarrez à 5h30 le matin, vous êtes à la chambre de métier jusqu'à 9h. Si on vous suit sur les réseaux sociaux, on vous voit encore, même avant le couvre-feu ou après le couvre-feu, en activité. Qu'est-ce qui reste comme temps pour vous ?
Qu'est-ce qui reste ? Il me reste quand même les week-ends. Je m'offre quelques plages. Mais vous savez, je vois pas le temps passer. Heureusement qu'il y a le confinement actuellement, que je parte un peu plus tôt du bureau, mais je ne vois pas le temps passer. Mais pour l'instant, je peux dire que j'ai été un président virtuel. Je me suis fait élire de manière tout à fait virtuelle, puisque c'était par écran interposé.
On va dire digital pour pas que ça soit.
On va dire digital. Beaucoup de choses se passent en visio et il me tarde aussi de voir des gens, d'aller dans les assemblées générales des corporations pour pouvoir apporter la parole de la chambre de métier, de rencontrer des artisans. C'est des choses qui aujourd'hui me manquent profondément et j'espère bien ces prochains mois pouvoir y remédier.
Mais de toute évidence, vous allez pouvoir, j'en suis convaincu, et surtout nous l'attendons aussi toutes et tous avec beaucoup d'impatience. Je sais, on en parlait, je pense que c'est important. Je la salue également, votre épouse Pascale, que vous citiez tout à l'heure. C'est ce binôme que l'on retrouve souvent chez les artisans et sans qui, j'imagine, on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme.
C'est ça, et puis déjà, je la salue. Je salue aussi tout l'investissement qui est fait au niveau de l'entreprise. Alors j'ai la chance aussi, à côté d'elle, d'avoir identifié quelque part mon futur repreneur déjà. Donc je fais un accompagnement, d'ici 7-8 ans, il reprendra l'entreprise. Et puis avec mon épouse, aujourd'hui, ils ont les rênes de l'entreprise. Et je suis vraiment délesté un peu des problématiques de l'entreprise.
Des ultraconiennes, rassurez-nous, vous allez continuer à travailler quand vous serez à la retraite. C'est pas pour tout de suite. Hein.
Non, c'est pas pour tout de suite. De toute façon, je suis focus au service de l'artisanat. Je suis focus au service des entreprises artisanales. C'est quelque chose qui aujourd'hui prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant parce qu'on rencontre des gens fantastiques.
Eh bien, écoutez, Jean-Luc Hoffmann, on s'impatiente de vous retrouver, d'avoir des nouvelles, bien sûr, des artisans d'Alsace, de France, du Grand Est, de partout. Et je suis certain qu'on aura l'occasion de se retrouver sur ces ondes et encore ailleurs pour pouvoir parler artisanat et artisanat du futur.
Merci à vous. Je reviendrai, bien sûr, avec plaisir, si vous m'invitez.
Avec, ça sera fait, bien entendu. Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre des métiers d'Alsace, nous avons le plaisir de recevoir sur Radio Judaïka. À très bientôt, Jean-Luc Hoffmann, et merci pour votre venue. Thank you.